pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Dans les années 70, un jeune homme quitte son Espagne natale et part à Paris. Il part y vivre ce qu'il imagine, une vie d'écrivain à la Hemingway, une vie qu'il rêve comme son livre « Paris est une fête », qui est au passage un récit fort ennuyeux, mais dont le titre français, « Trouvaille géniale » d'un éditeur parisien, est plein de promesses. En réalité, ce que veut le jeune homme, c'est devenir Hemingway lui-même, comme Hugo voulait être Chateaubriand ou rien. Il loue une mansarde au cœur de Saint-Germain-des-Prés, qui convient bien à son futur état. Il se trouve que sa logeuse se nomme en plus Marguerite Duras. Rapidement, il fréquente Pérec, Queneau, il se retrouve dans des soirées, anime des causeries. Il est aussi à Paris très pauvre et très malheureux, ce qui convient très bien. À l'image de tous les voyageurs en quête d'authentique, ce que recherche le jeune homme, c'est posséder la ville, comme on dit posséder une femme, qu'elle lui appartienne, qu'il cesse d'y être un corps étranger, il veut en être, faire chair avec son fantasme de vie parisienne. Alors il marche beaucoup, s'assied beaucoup aux terrasses de café, se laisse porter, sans but précis, il écrit. Au bout de quelques mois, il mène ce qu'il rêve être, une vie d'écrivain. Des années plus tard, dans son livre intitulé « Paris ne finit jamais », Enrique Villamatas, écrivain espagnol, écrira « Tout finit sauf Paris, qui ne finit jamais, m'accompagne toujours, me poursuit, représente ma jeunesse. Où que j'aille, Paris voyage avec moi, est une fête qui m'emboîte le pas. Cet été peut finir maintenant, en effet il finira. Le monde peut sombrer, en effet il sombrera. Mais ma jeunesse, mes Paris ne doivent jamais finir. » Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, l'histoire d'Anna est aussi celle d'une jeune femme qui prend possession de la ville de manière plus prosaïque, plus contemporaine, mais tout aussi fantasmatique, le rêve d'une étrangère qui deviendrait une vraie Parisienne et qui vivrait pleinement dans une ville qui a fini d'être une fête depuis Belle Lurette, comme on l'entend jusqu'à 14h sur France Culture dans ce récit de Leïla Djitli.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Anna et moi en fait, mon accent le dit déjà un peu, je viens des Pays-Bas. Donc moi je viens de la campagne hollandaise et la France était toujours pour moi une terre promise. Et depuis que j'ai 15 ans, je voulais vivre en France, payer mes impôts là-bas. Bon, mes parents disaient il faut d'abord faire des études pour faire une belle carrière. Donc je l'ai fait de la conception des produits médiatiques, la communication, le marketing. Et donc, dès que j'ai eu mon diplôme, j'étais très, très contente parce que pour moi, ça ouvrait la voie du train, le Thalys qui m'amenait à la gare du Nord. Alors, et quand je suis arrivée à la gare du Nord, les portes du train se sont ouvertes et j'ai senti la ville. Paris a quand même une odeur de l'aventure, de la découverte. Et de suite, j'ai vu le mur qui est autour de la gare, qui sépare les voyageurs encore de la ville. Mais je savais que derrière ce mur, c'était là-bas qu'il fallait aller. Et j'ai vu un peu les pierres taillées des immeubles, mais aussi les toits de zinc. Et donc, quand je marchais sur la quai, en fait, on voit le côté de la gare du Nord qui n'est pas la plus jolie. Et c'est que quand on regarde la façade, qu'on se dit « Waouh, Paris, c'est quand même quelque chose. » Y a les statues, des fois, il y a le soleil sur la façade. C'est magnifique. Et déjà, toutes ces odeurs, ces cultures, ces gens différents, c'est très inspirant et très prometteur. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il faut quand même que je mange et il faut que je trouve un travail. Donc j'ai commencé à chercher dans mon domaine, qui est donc le marketing, la communication et la conception des produits médiatiques. Mais c'était très dur parce que j'avais pas de piston, je connaissais personne. Donc j'ai pas trouvé sur le coup. Et donc, j'ai postulé sur une annonce pour devenir vendeuse de glace sur l'île de Saint-Louis. Et je me suis régalée pendant 9 mois. J'ai goûté tous les parfums, des sorbets, des glaces.
Vous étiez chez Bertillon?
Exactement.
Oh bah.
Donc, j'ai fait connaissance avec la famille, avec leur authenticité. C'était vraiment une très bonne expérience. Ouais. Mais au bout de, quand j'ai goûté tous les parfums, 7 fois, 8 fois, j'avais envie de faire connaissance avec Paris d'une autre façon. Il y avait beaucoup de touristes, donc moi je voulais rencontrer le vrai Parisien, donc plus de l'intérieur.
Et, parce que ça, c'était votre rêve?
Oui, un rêve, oui. Rencontrer des gens... savoir comment ils vivent, pourquoi ils font ce qu'ils font. C'est ça qui m'intéresse depuis que je suis petite, oui. C'était oui. Un rêve que la ville m'appartenait, que ma présence dans la rue était légitime. Paris est quand même très dense, donc il y a beaucoup de monde, beaucoup de cultures différentes, religions différentes. Mmh. Et je me suis dit, dans la rue, on rencontre plein de monde. Donc, ce sera l'endroit idéal pour comprendre Paris, pour comprendre les Parisiens, pour regarder la société. D'abord, je me suis dit, je vais devenir factrice, distribuer des lettres d'amour, rencontrer des gardiennes. Bon, factrice, j'ai vu qu'il fallait le permis, et moi, je n'aime pas conduire, encore moins à Paris. Donc, très vite, je me suis dit, non, ça ne va pas être factrice. Et puis, un jour, en vélo, j'ai vu un balayeur. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être quelque chose. De balayer Paris, de frotter le caniveau public. Et du coup, j'ai écrit une lettre de candidature pour devenir balayeur. Moi qui est un peu naïve, et je pensais que j'étais la seule à vouloir frotter le caniveau public et que j'allais être embauchée de suite. On m'a dit qu'il y avait quelques milliers de personnes qui voulaient balayer Paris. Et j'ai été convoquée pour un test écrit. Et donc je me suis rendue à la salle où ça se passait. Il y avait des centaines de personnes devant la porte déjà. Je me rappelle qu'il faisait encore nuit. Il y avait beaucoup de monde, mais personne ne se connaissait. Donc, on était un peu attroupés devant la porte, mais personne ne parlait. Et une fois dans la salle, donc, j'entends encore le bruit des stylos qui tombaient, des soupirs. Je me rappelle qu'il y avait un genre de sans-abri ou qui criait des fois des choses incohérentes. Mais personne ne réagissait. Donc le test écrit, c'était des questions comme par exemple, quand vous commencez à travailler, il y a un collègue qui vous invite à boire le café, qu'est-ce que vous faites? Un usager vous demande de débrasser son cours pour 50 euros, qu'est-ce que vous faites? Ou quand il y a des touristes qui vous approchent, qui vous demandent quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Donc, il y avait plein de questions pour, je pense, tester notre éthique, notre professionnalisme. Et j'avais quand même compris ce qu'ils voulaient entendre, comment répondre. Et donc, après ce test, il y avait un peu d'attente parce que le temps que les résultats arrivent dans ma boîte aux lettres. Donc, j'habitais à l'époque, j'habitais dans un foyer pour jeunes travailleurs en banlieue proche, au 8e étage. Et je prenais jamais l'ascenseur. Et donc, chaque fois que je pensais que le facteur était passé, je descendais toutes les marches pour regarder dans ma boîte aux lettres si la lettre était arrivée. Parce que ce travail-là était la façon idéale pour que mes rêves deviennent réalité. Donc, une fois arrivé à ma boîte aux lettres, un peu essoufflée, j'étais très contente de le trouver. Et donc, dans la lettre, il y avait écrit que j'étais admise pour passer l'épreuve physique. Et ça se passait à l'école de Montmartre, à l'école de la propreté. Paris est assez unique à avoir une école de la propreté où on apprend les gestes, les postures, où on apprend à balayer. Mais cette épreuve physique se passait à l'école et quand je suis arrivée, il n'y avait que des femmes qui passaient cette épreuve-là avec moi. Et l'épreuve était de pousser une poubelle à roulettes, un conteneur, du parking souterrain jusqu'en haut, de faire un petit parcours et puis de redescendre. Et il y avait aussi les sacs de sable d'un côté, il fallait les mettre de l'autre côté. Et tout ça, c'était chronométré. Et apparemment, de cette section, j'étais la plus rapide. Et ça m'a fait plaisir. Après, j'ai attendu encore pour la lettre. Donc, encore une fois, je descendais et je m'en remontais. Et il y a eu un jour où il y avait la lettre qui me disait la bonne nouvelle. Et j'étais toute contente. Enfin, tout était bon et j'allais enfin pouvoir prendre un balai entre mes mains. Et donc, je suis passée 2 semaines à l'école de la propreté, où on a appris à balayer, mais aussi à ramasser des ordures ménagères. Et j'ai adoré ça parce qu'on était derrière la benne, et on passait devant l'opéra. Et je me sentais comme une reine dans la ville, sur ma charrette, avec plein de chevaux devant. C'était magnifique. Jamais j'avais vu l'opéra d'une telle façon. Et tous ces gens qui regardaient autour de nous dans leur petite voiture. Et je me sentais vraiment comme une reine. Donc après ces 2 semaines d'école voilà. De propreté, je me suis réveillée à 4h30 pour aller travailler. Mais j'avais le moral parce qu'enfin j'allais savoir comment c'était. Et j'ai pris mon petit vélo, je suis descendue à la ville et je trouvais ça magnifique parce qu'il n'y avait pas encore de voiture, il n'y avait pas encore de monde, les feux servaient à rien. J'entendais encore les oiseaux, ça sentait encore bon. C'est un Paris différent, je connaissais pas ce Paris-là. Et une fois à l'atelier, il y avait plein de bonhommes en vert. Et il fallait les saluer, il fallait serrer la main à tout le monde. Et ils se présentaient, donc Anna, bonjour. Donc très vite, ils ont remarqué mon accent, je venais en vélo, déjà c'était un peu bizarre, pourquoi? Et le problème, c'était que tous les bons hommes en vert, ils se ressemblent. Donc je savais plus à qui j'avais serré la main, et en plus, je voulais pas non plus zapper quelqu'un, parce que c'était mal vu, puis ça se fait pas, je voulais dire bonjour à tout le monde, mais c'était difficile quand même. Et je me rappelle une personne qui était en pantoufle. Et on l'appelait donc pantoufle. Et je connaissais même pas son nom, c'était pantoufle. Donc tout le monde a eu un poste dans un arrondissement différent. Et moi, je me suis vue affectée à un atelier où on faisait que du balai. Donc on ramassait pas les ordures ménagères. Et finalement, ça m'allait très bien, parce que ramasser les poubelles, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de stress, parce que, par exemple, si on oublie de frotter un caniveau, personne va le voir, personne va râler. Par contre, si on oublie de vider une poubelle, de suite, il y aura des plaintes. Et donc, on déblayait quand même les marchés, on nettoyait les trottoirs à la lance. Mais l'activité principale était de passer le balai sur les trottoirs, dans les caniveaux. Et donc, du coup, j'étais affectée avec une autre personne pour bien connaître le secteur. Donc, lui, il s'appelait Coco. C'est lui qui m'a initiée au trottoir parisien. Ça faisait 8 à 10 ans qu'il travaillait dans le même quartier. Et moi, je me suis dit, c'est peut-être monotone. Mais du coup, il connaissait très bien ces quartiers. Et les collègues disaient, ben, Coco, il s'occupe très bien de ces quartiers. Il n'y a pas d'herbe, c'est nickel. Moi, je me suis dit, mais c'est comme ses enfants, quelque part. Il n'en avait pas, d'ailleurs. Donc, et donc, il connaissait, il rencontrait souvent les mêmes personnes. Et Coco, il avait ses habitudes. On va dire, à 9h, il allait chez Lidl, s'achetait toujours les mêmes trucs. Une pomme, une banane et un yaourt. Et donc, Coco, c'était chronométré, on va dire. À chaque seconde, il savait... Là, je vais aller au cimetière faire pipi. Là, je vais chez Lidl acheter la casse-croûte. Là, je vais chez le boulanger acheter une demi-baguette. Et là, je me mets 5 minutes sur cette coin de rue pour attendre le collègue Bébert. Et ça m'a mis dans le bain. Donc, grâce à Coco, qui fignolait tellement, qui avait l'œil pour tout, toutes les petites saletés, en fait, des fois, c'était assez propre, le quartier. Donc, du coup, il fallait vraiment chercher pour trouver des endroits où il y avait encore des saletés. Et j'ai trouvé un jour, derrière un poste d'EDF, j'ai gratté avec le balai, il y avait plein de feuilles. Je les ai tout grattés et parmi les feuilles, il y avait des pièces, il y avait une porte-clé. Et je me suis dit, ah, mais peut-être il y a partout des petits trésors comme ça qui sont étonnants, que je pourrais récupérer juste pour... parce que ça me plaît, ça me... Et chaque petite chose représentait pour moi une histoire, même si c'était que dans mon imagination, mais... Je trouvais ça intéressant, oui. Du coup, j'étais très à l'affût des petits recoins, oui, ça m'intéressait beaucoup. Moi, par exemple, j'ai trouvé un iPod dans la boue et je pensais qu'il ne fonctionnait plus, je ne savais même pas ce que c'était. Et je vois ça, je me suis dit, bon, ben, ça doit être cassé. Mais avant de le mettre quand même dans mon roule-sac, j'ai appuyé un peu sur les boutons et le petit écran, ça s'allumait. Je me suis dit, wow, apparemment, ça fonctionne. Donc, je l'ai mis dans la poche et je l'ai toujours. Et c'est vrai, nous, on appelle ça la bif. Et c'est vrai, pour les éboueurs, les balayeurs, faire de la bif, c'est une source de motivation. Il y a eu des moments très durs quand même, par exemple au niveau du froid. J'avais très mal aux mains et je ne savais pas comment les protéger et comment faire pour avoir moins mal. Donc oui, c'est surtout le froid qui était l'ennemi principal de mon travail. Sinon, au début, les crottes aussi, j'avais vraiment du mal à les ramasser, mais je me disais, il y a peut-être une vieille dame qui va glisser dedans, je vais m'en vouloir, donc ça me motivait quand même à le faire. Et donc, il y a eu des moments où je me disais, mais je suis vraiment folle de faire ça, parce que demain, ce sera encore sale, après-demain, ça va encore être sale, ça sert à rien que je suis là, j'ai mal aux mains, j'ai envie de faire pipi, mais il faut que je rentre à l'atelier, c'est loin. quand est-ce que c'est la pause. Et au bout d'un certain temps, eh bien, j'avais la méthode peut-être pour pelleter ça et inconsciemment peut-être je fermais mes narines, mais même les crottes des chiens, ça allait. Et donc, à la fin de la journée, on a l'impression d'avoir été utile. À l'école de la propreté, on nous enseignait beaucoup sur l'image de marque, comment le regard des autres, comment était vu le balayeur, vu qu'on est quand même très visible. Et du coup, j'étais pas encore très à l'aise au début, parce que j'étais très occupée par le regard des autres, même si très souvent, ils me voyaient même pas, hein. Mais c'était dans ma tête. Et du coup, j'étais pas encore vraiment moi-même, j'étais pas encore à l'aise. C'est venu après un mois. Je pense que ça a duré au moins un mois, oui. Quand je me suis vraiment quelque part approprié le quartier, les pâtés de maison, quand je savais où étaient les bouches de lavage pour ouvrir l'eau pour dans les caniveaux. Et c'est là où je me suis sentie légitime dans la rue et donc à l'aise. Et c'est là aussi où je me suis ouvert plus, où mon regard s'est levé du trottoir pour regarder les gens. C'est là où mon regard s'est ouvert et où j'ai rencontré plus de monde, parce que quelque part la tenue inspire la confiance, tout le monde croit vous connaître, donc les gens viennent vous voir, ils vous racontent un peu leur vie. Certaines pensent que vous les appartenez parce qu'ils payent des impôts. Mais souvent, c'est quand même des rencontres sympathiques, oui. Alors, très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, dans le milieu ouvrier, je me sens parfaitement à l'aise. Quand on voit ma famille, c'est peut-être pas si bizarre que ça, parce que c'est un peu des ploucs, comme moi, je me considère comme une plouc. On est normal, on aime la campagne, on est assez simple. Donc, quelque part, oui, cette ambiance ouvrière, je me sentais chez moi. Je me sentais à ma place parmi les ouvriers. C'est vrai que peut-être ils s'expriment plus facilement que ceux qui travaillent dans un bureau. Peut-être ils ont plus de retenue ou peut-être plus de politesse. Et parfois, je trouve que la politesse, on se cache derrière. On ne dit pas « je n'aime pas ta gueule » et... Il n'y a pas de mots vrais des fois, il n'y a que des politesses. Et chez les ouvriers, entre guillemets, ce qui me plaisait, c'était leur franchise. Dans ma famille, c'est pareil. Donc je me sentais bien à l'aise. Et toute ma famille était très contente. Ils disaient, c'est une expérience extraordinaire. C'est formidable ce que tu fais, ce que tu vis. Il y avait que ma grand-mère qui disait, oh, mais c'est dégueulasse. Tu ramasses la merde des autres. C'est quand même pas bien. Qu'est-ce que tu trouves là-bas? Mais je comprends pas. Alors, c'est vrai que, avant de commencer à la propreté, je m'étais dit, voilà, je vais faire ça un an ou deux. D'accord. L'histoire de voir comment c'est. Alors j'ai passé le balai pendant 2 ans à Paris et en cours de route je me suis rendu compte que je pouvais faire ce métier encore longtemps, mais j'avais envie de voir autre chose peut-être, de prendre un peu de distance. Et je trouvais Paris quand même très dense. Moi, comme fille de la campagne, j'avais besoin de retrouver la nature, de me ressourcer. Je trouvais que Paris, ça devenait très dense, surtout quand on est dans la rue tous les jours, dans certains quartiers, quand les bureaux se vident, tout le monde est pressé. J'avais l'impression que j'étais plus à ma place. Et donc, la ville devenait oppressante et ça me gênait. Avant, je trouvais ça extraordinaire, je me posais plein de questions. Et là, c'est comme si j'avais trouvé les réponses et que j'avais envie que ça se terminait et voir autre chose. Donc au bout de 2 ans, j'ai rendu le ballet. Oui. Oui. Et donc il y avait ma grand-mère qui était contente quand j'ai rendu le ballet. Et donc du coup, j'ai pris mes valises et je suis montée dans le train encore une fois et destination le sud de la France. Et ça fait maintenant 5 ans que j'y vis.
Tu as mis ça sur ton CV, balayeuse à la ville de Paris pendant 2 ans?
Ah mais bien sûr, je l'ai mis sur mon CV, oui, avec fierté d'ailleurs. Et des fois, ça me manque encore, ce métier. Ça me manque, oui, parce que c'était quand même un monde multiculturel, on rencontrait plein de gens, tout le monde me racontait leur vie, leur parcours, et j'ai trouvé ça passionnant.
Sitting right here in my rocking chair, running my fingers right through my hair. Fire is a flickering with the yellow and gold, making me quiver in the snowy cold. I got a lazy old woman screaming about my money, man. She took every cent and she didn't leave me any. Times were never this good. Gotta fly for food. Got no woman to spend my.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre. Paris est une fête, un reportage de Leïla Djitli, réalisé par Emmanuel Geoffroy. L'attachée de production, c'est bien sûr Sandrine Chaperon. Merci à Anna Livard, aux éditions de L'Opportun, et à Sandrine Gulbenkian, des éditions Parigramme. N'hésitez pas à partager nos émissions sur les réseaux sociaux si elles vous ont intéressé, à les poster, à les commenter, à les faire tourner. Vous pouvez également vous abonner à notre podcast. Vous devez vous abonner à notre podcast pour pouvoir nous écouter quand vous voulez et où vous voulez et autant de fois que vous le souhaitez.